Dans Ézéchiel 36, on a lu le chapitre complet, c'est bien, ça nous a baigné là-dedans. On aurait même pu lire le chapitre 37, le chapitre 11, parce qu'on va référer à ça, mais pas autant en détail que le chapitre 36. Mais je vous ai dit, hein, que on a lu le chapitre 36, j'allais faire un parallèle avec un autre passage. Et là, je vais vous le lire. On va commencer par lire les versets 22 à 25. Pour s'introduire, après ça, je vais vous expliquer c'est quoi le parallèle qui est unique qu'on voit dans cette révélation de Dieu par le prophète Ézéchiel. Donc, on commence au verset 22. « C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Ce n'est pas, pardon, à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom. » que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés, je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » On s'arrête là pour l'instant, parce que je vais vous lire quelque chose, vous allez me dire ça vient de où. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel
37.
Non, c'est verset 26. Ah, je vous ai eu. C'est 11-19. En fait, les deux, ça dit la même affaire. Saviez-vous ça que ce verset-là est deux fois dans Ézéchiel? Là, je dis 11-19. Mais donc, si on continue, j'avais arrêté au verset. 23, mais c'est ça, regardez verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un corps de chair. » J'avais arrêté avant pour ne pas trop vous donner d'indices, mais vraiment ce qu'on veut regarder ensemble aujourd'hui, c'est Christ, notre sanctification par un cœur nouveau. On va considérer ça, mais avant j'aimerais prier. On te remercie Seigneur que oui, c'est ta parole, ta divine parole qu'on a entre les mains. Merci que tu t'es fait connaître à nous. Tu t'es révélé, Seigneur, dans ta parole, mais aussi, tu nous as révélé ton Fils dans nos cœurs à tous ceux qui te connaissent ici. Et on te rend grâce pour ça. Et Seigneur, s'il y en a qui n'ont pas encore passé par là, qu'ils puissent aujourd'hui, Seigneur, te connaître, révèle Christ à leur cœur. Et pour nous, tes enfants, illumine les yeux de notre cœur, qu'on voit tous les trésors infinis de la richesse de qui est en Jésus-Christ, les trésors d'un héritage éternel, sur lequel, Seigneur, on désire plonger nos regards ce matin. Et on te remercie que tu nous donnes cette occasion. Qu'on soit attentif, qu'on soit disposé envers toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, deux fois dans Ézéchiel, on a cette expression-là. Je vais leur donner un même cœur, un esprit nouveau. Je vais leur donner un cœur de pierre. Je vais enlever leur cœur de pierre, je vais leur donner un cœur de chair. Et c'est significatif parce que le message du livre d'Ézéchiel, c'est du péché, de l'idolâtrie à la gloire de Dieu. Je vais vous expliquer ça plus en détail à travers le message. Et ça, s'il y a bien un thème qui est christocentrique, c'est ça, du péché à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a opéré cette restauration, c'est promis partout dans l'Ancien Testament, et c'est accompli en lui. Et ça, malgré la dureté, le cœur de pierre de l'homme, qui, dans le livre d'Ézéchiel, je dois le dire, est dénoncé avec véhémence à travers le livre. Oui, la gloire de Dieu, c'est ça pourquoi Dieu fait toutes choses. C'est le facteur motivateur de Dieu pour tout ce qu'il fait. Et c'est son attribut suprême. C'est le Dieu de gloire, le Dieu de toute gloire. Et c'est aussi la centralité de l'œuvre de restauration, de rédemption qui est en Jésus-Christ. Il prend des gens vils qui ne veulent rien savoir de lui. Il les sauve, les restaure, puis ils vivent pour sa gloire. Et j'aimerais juste dire par rapport à ça, par exemple, qu'il n'y aurait pas de bénéfice pour nous, les humains, si ça ne nous était pas transmis par le fait que Dieu prend notre cœur de pierre puis qu'il nous donne un cœur de chair. Ça prend cet acte divin, cette transaction, cette grâce qui vient de Dieu. Et là, ça l'engendre un effet multiplicateur de sa gloire, où est-ce que ses enfants deviennent des instruments de sa gloire qui propagent comme ça sa gloire parmi les nations, partout où ils vont. Et c'est ça le message que j'aimerais considérer avec vous ce matin. Comment le Seigneur transmet sa gloire, la gloire de sa grâce par Christ, notre sanctification, par un cœur nouveau. C'est en harmonie avec le thème d'Ézéchiel, comme je le disais tantôt. C'est aussi en harmonie avec le thème qu'on termine aujourd'hui, le thème du mois de juin, Christ, notre sanctification. Et j'aimerais qu'on regarde ça avec simplement deux aspects fondamentaux de Christ, notre sanctification par un cœur nouveau. D'abord, on va se pencher sur Christ, notre sanctification. C'est le premier aspect que je veux qu'on regarde. Et vous allez voir, je vais arriver là en vous décortiquant ici le passage qu'on a sous les yeux dans Ézéchiel 36. D'abord, dans les versets qu'on a lus et dans l'ensemble du chapitre, il y a deux mots-clés bien importants: sanctifier et profaner. Ça explique comment justement ce passage nous parle de prendre le péché, l'idolâtrie et en arriver à la gloire de Dieu. Et ça, c'est de par l'initiative de Dieu qui veut défendre son nom, son honneur, face aux attaques à son grand nom. Et comment il a été profané par Israël et parmi les nations. Et je dirais que le chapitre 36 est très important dans la prophétie d'Ézéchiel parce que c'est le pont, le chapitre 36 fait un pont entre le jugement, la dénonciation des chapitres précédents. Ceux qui ont lu Ézéchiel dernièrement, là, des fois c'est ouf, c'est rough, puis là ça dénonce Israël, ça dénonce les nations, puis le péché, l'idolâtrie, mais ça fait le pont avec la gloire qui est restaurée dont fait l'objet des chapitres suivants. Et en passant, dans Ézéchiel, on voit dès le début la gloire qui était sur Jérusalem, qui était avec, dans le temple et tout ça, qui quitte Jérusalem, qui s'en va à cause du péché. C'est vraiment le message pour ça, du péché à la gloire. La gloire part au début du livre, puis elle revient à la fin du livre. Comment Dieu restaure ça? Et donc, vraiment, le chapitre 36 est un endroit clé là-dedans, où est-ce que c'est là que le pont se fait, cette gloire qui avait quitté Jérusalem, comment elle va revenir par la grâce de Dieu. Et donc, je dirais que le chapitre 36 est important aussi en ce qu'il explique la raison de la restauration. Pourquoi Dieu restaure? Puis il dit, c'est clair, il dit, c'est pas à cause de vous, Israël, c'est à cause de moi. Donc, la raison, elle est théocentrique. C'est Dieu qui le fait à cause de lui. Et je dirais, elle est trinitaire. On va voir comment les trois personnes de la Trinité sont impliquées là-dedans, puis comment l'œuvre de Christ est centrale. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais encore un peu pour vous amener le sujet un peu plus en profondeur, Dieu défend, il sanctifie son honneur et son nom devant les nations qu'Israël a profanées. Parce que là, Israël était supposé d'être ceux qui proclamaient la gloire de Dieu, le message de l'Éternel aux nations, mais de par leur idolâtrie, de par leur péché, ils ont présenté Dieu comme étant juste un Dieu parmi tant d'autres. L'idée de profaner, c'est qu'ils ont rendu Dieu comme si c'était quelque chose de commun, quelque chose d'ordinaire. Et j'aimerais vous dire là-dessus qu'on peut trouver un sujet de réconfort par rapport, des fois on peut regarder les temps d'apostasie de l'Église dans lequel on vit, ici en Occident. Et n'est-ce pas réconfortant de savoir que Dieu est motivé pour sa gloire, que lui-même veut restaurer ce que nous, on a pu bafouer. Israël n'avait pas prêté attention à l'Éternel comme il devait, mais Dieu lui-même, pas à cause de nous, mais à cause de lui, veut restaurer les choses pour sa propre gloire. Et ça, ça fait que nous, on en bénéficie de la délivrance et de l'assurance que ça nous donne que Dieu va emmener toutes choses pour le glorifier en bout de ligne. À ce sujet, considérez avec moi le verset 20 et 21. Elle dit, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, ils ont profané mon nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est le pays qui, c'est de son pays qu'ils sont sortis, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles sont allées. Ça nous donne vraiment ici une compréhension, c'est quoi le sens profond de, c'est quoi ça veut dire de profaner le nom de l'Éternel? C'est de l'associer à ce qui est commun. Les gens voyaient Israël et disaient, leur Dieu n'est pas mieux que les autres dieux. N'est-ce pas ce qu'on entend? Bon, toi, c'est ta religion. Puis, n'est-ce pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Et c'est ce que Dieu dit, non, je vais m'occuper de ça. Là. Je ne vais pas laisser ça aller. Là. Parce qu'ici, il est question de moi. Puis je suis le seul vrai Dieu. Puis je vais défendre mon honneur. Et rien n'offense plus l'Éternel que s'attaquer à son honneur, à son nom, à qui il est. Parce que c'est une attaque directe à sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est le fait qu'il est à part, il est incomparable. Il n'y a pas de Dieu comme lui. En fait, tous les autres dieux, ce n'est pas des dieux, c'est des idoles. Il y a juste lui qui est le vrai Dieu. Si on s'attaque à ça, oh mon ami, on vient d'aller dans une zone qu'on n'aurait jamais dû aller. La sainteté, c'est un attribut de Dieu qui est tellement important, son attribut englobant, ça l'englobe tout le reste. L'amour de Dieu est saint, il n'y a pas d'amour comme l'amour de Dieu. Sa justice, elle est sainte, il n'y a pas de justice parfaite comme la sienne. Tout ce qui est de Dieu est saint. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment Dieu défend comme ça son honneur et son nom? Ben, la réponse est dans l'œuvre rédemptrice qui est accomplie en Jésus-Christ, parce qu'elle ramène l'honneur là où il y avait de l'opprobre. Et là-dessus, je vais vous expliquer ce qu'il y en a avec le chapitre 36 versus le chapitre 37. Je vais vous dire un gros mot, pas un gros mot méchant, mais un mot là, que les gens vont dire, quoi qu'il parle le pasteur un matin. Les chapitres 36 et 37 forment ce qu'on appelle un chiasme. Est-ce que c'est quoi un chiasme? Un chiasme, je vais vous l'expliquer simplement. C'est comme si on prenait notre Bible ici et on mettait un miroir entre les deux. Puis, il y a un bord qui est reflété par l'autre. Il y a un bord qui s'en va comme ça, puis l'autre s'en va comme ça. Voyez-vous, c'est un miroir entre les deux, c'est un reflet. Puis là, vous voyez comment. Là, vous dites, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir. En passant, la structure chiasmique des psaumes, de la littérature prophétique, c'est très important. Il y a beaucoup. Pour comprendre l'Ancien Testament, spécialement les prophètes, puis bon, les psaumes, c'est des prophètes aussi qui ont écrit ça, prophètes de l'Éternel. C'est très important à comprendre, parce que souvent on voit ça, ça arrive d'un point, puis là, ça part de là. Puis c'est très important à comprendre si on veut bien interpréter la parole de Dieu, mais ici, c'est deux chapitres qui sont comme ça. C'est-à-dire que l'ordre de restauration, parce qu'on voit dans le chapitre 36 une restauration, puis on en voit aussi une dans le chapitre 37, mais ils sont comme, un, elle va d'un bord, puis l'autre, va dans l'autre bord, OK? Puis là, je vous l'explique plus spécifiquement. Puis je vous parlais tantôt de l'œuvre trinitaire de restauration. Dans le chapitre 36, spécialement dans les versets 22 et 23, on voit comment les choses sont restaurées par la sanctification du Père, de l'Éternel. Regardez à verset 22. « C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » L'Éternel, Dieu le Père. Donc ça, c'est le début de cette restauration. Puis regardez comment ça poursuit avec l'œuvre de purification qui nous pointe à l'œuvre de Christ. Verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans le pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. » Comment Dieu purifie? Par le sang de Christ, par l'œuvre de rédemption qui est dans Jésus-Christ. Donc, ces versets-là nous pointent à l'œuvre de Christ. OK, donc le Père, le Fils, puis regardez au verset 26 et 26, le Saint-Esprit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observerez et pratiquerez mes lois. » Ça, c'est quoi? C'est l'œuvre de régénération du Saint-Esprit qui nous donne un cœur nouveau, une nouvelle disposition face à Dieu et sa loi. Donc, voyez-vous l'ordre? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois, tous impliqués dans cette œuvre de restauration. Maintenant, suivez bien. Là, on ne va pas tout lire les versets dans le chapitre 37, ça c'est trop long. Mais le chapitre 37, prenez en note, vous pourrez le revisiter vous-même. Mais on a dans le début du chapitre 37 la fameuse vision des os desséchés. OK? Et ça, c'est une image de la restauration du Saint-Esprit. Ah! On vient de finir dans le chapitre 36 avec le Saint-Esprit. Chapitre 37, on commence avec le Saint-Esprit. Vous, c'est ça un kiasme. Ça finit avec une manière, ça recommence avec la même. Après ça, dans le chapitre 36, on a l'œuvre de restauration sociale par la purification de l'inimitié qu'il y avait entre les hommes par le fils de David. Titre messianique. OK, juste à ce sujet-là, juste pour que vous me croyez, là, que vous savez, je n'ai pas pris ça n'importe où. On va lire 37, 24 et 25. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qui ont habité vos pères et ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants en perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Si ça, ça ne pointe pas à Christ, le fils de David, ça ne pourrait pas être plus clair que ça. Donc, voyez-vous, régénération du Saint-Esprit, ensuite purification encore là, restauration par Jésus, le fils de David. Et dans la fin du chapitre, et spécialement dans les versets 26 à 28, on a la restauration par la sanctification du Père qui prend une place d'honneur selon la promesse qui avait été faite au patriarche. Regardez à ce sujet-là juste le verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, c'est un des patriarches, et qu'ont habité nos pères, et ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants en perpétuité. Non, excusez, c'était 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux, et je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Voyez-vous encore comment le Père sanctifie son nom, qui est sur Israël, qui est sur Jérusalem, sur le Temple. Donc c'est ça un kiasme, ça commence avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans le chapitre 36, puis dans le chapitre 37, c'est le Saint-Esprit, le Fils, puis le Père. Maintenant, pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer ça? Pour la raison suivante. Remarquez comment ce qui a fait cette structure que le Saint-Esprit a inspirée ici pour ces deux chapitres-là nous montre la centralité de l'œuvre de Christ. Dans les deux, c'est en plein milieu. La centralité de l'œuvre de Christ. Parce que le retour de la gloire de Dieu par la sanctification du nom du Père, par la régénération du Saint-Esprit pour son peuple, c'est christocentrique. Ça doit passer par la croix, ça doit passer par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ça, en partant de l'incarnation, la crucifixion, la résurrection, puis même l'ascension, pour que ça puisse atteindre pleinement son but. D'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fils de David, celui promis. Et ce but, j'aimerais vous dire ce matin, il a été accompli parfaitement. Écoutez ce que ça me dit dans Éphésiens, chapitre 1. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Écoutez aussi dans le même sens, Éphésiens 2, 18 à 22, car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Voyez-vous encore la Trinité ici, par Christ, on a accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, voyez-vous? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ça, c'est l'accomplissement de ce qui est prophétisé ici. On l'a parfaitement dans l'œuvre de Christ, cette œuvre trinitaire. Et j'aimerais dire pour ça, l'application importante, toute sanctification, on parle de Christ, notre sanctification, toute sanctification commence par Dieu. Commencer avec Dieu commence par Dieu, parce qu'il est l'auteur de la sanctification, mais aussi notre vision que nous avons de Dieu, si elle est selon sa parole, ça va déterminer l'ensemble de notre conduite dans tous les aspects de notre vie, jusque dans les moindres détails. Par exemple, si ma vision de Dieu est un Dieu austère, qui est choqué après moi, puis qui m'attend avec un bâton pour me recevoir quand j'ai péché, ça va déterminer que je vais vivre dans la peur, puis je vais avoir tout le temps du stress. Ou si Dieu est un papa gâteau, qui laisse tout passer, puis bon, c'est pas trop grave. Ça aussi, ça va déterminer comment je vis. Mais si j'ai la vision biblique de Dieu, parce que les deux sont... sont pas la vision biblique, un Dieu qui est juste et un Dieu qui est amour, un Dieu qui est parfait dans sa sainteté, un Dieu qui s'est révélé justement en Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, ben ça va dicter ma conduite aussi en conséquence. Et lorsque Dieu se révèle ainsi à nos cœurs, comme il l'a fait avec Paul dans Galates 1, 15 à 16, elle dit « Mais lorsqu'il appelait celui qui m'avait mis à pendre le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Lorsque Dieu, comme ça, révèle son Fils à nos cœurs, ça va produire le deuxième aspect de Christ, notre sanctification par un cœur nouveau. Mais ça va produire un cœur nouveau. Et là, je vous demande de tourner dans le chapitre 11. Je n'ai parlé, mais là, on va y aller. Ézéchiel 11, on va lire les versets 15 à 25. Christ, notre sanctification par un cœur nouveau. L'accent, le premier point, c'était l'accent sur Christ. Là, c'est l'accent sur cœur nouveau. Donc, Ézéchiel 11, 15. On peut lire, « Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté de la maison d'Israël tout entière, à qui la maison, les habitants de Jérusalem disent, « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » C'est pourquoi tu diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile, ou ça, c'est un refuge, ok? » Dans un pays où ils sont, dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Et là, regardez notre verset, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, mais pour ceux dont le cœur ne se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. On va arrêter pour l'instant. Tantôt, on va lire les versets 22 à 25, mais on va attendre d'être rendu là. Donc, un cœur nouveau, on voit ça ici dans ces versets-là. Juste avant de vous expliquer un peu plus, je vous donne le contexte. Le chapitre 11 se divise en deux parties. Dans les versets 1 à 13, c'est pas très positif. C'est une dénonciation des leaders qui étaient à Jérusalem, les leaders politiques et spirituels qui étaient à Jérusalem et qui inspiraient de la fausse confiance. C'est tellement commun dans la littérature prophétique. Des gens qui disent « Ah, tout est beau, faites-vous-en pas, Dieu est avec nous, restez à Jérusalem, la vie est belle. » Donc Dieu dénonce par son prophète, il dénonce ces gens-là qui en arrivaient même à se moquer de ce que l'Éternel disait par le prophète Ézéchiel. Et là, c'est la réponse d'Ézéchiel, de l'Éternel par son prophète à ces gens-là. Mais quand on arrive à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, là, ça s'adresse à ceux qui sont déjà en exil, soit à Babylone, soit, parce que ça dit en divers pays, ils ont été dispersés à différents endroits. Et là, Dieu leur donne des paroles de réconfort et des promesses. Donc, on voit vraiment un contraste. Le chapitre se divise entre la réprimande et le réconfort. Et au verset 16 qu'on a lu, ça dit, « C'est pourquoi tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les dispersé en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. » L'ironie, c'est que la fausse assurance que les leaders disent, « Ah, oh, on est à Jérusalem, c'est beau », c'est une fausse assurance parce que ça n'allait pas être beau. Jérusalem était sur le bord d'être envahie. Et que ceux qui méprisaient, qui étaient dites par des gens qui méprisaient les exilés, ceux qui avaient été dispersés déjà dans les premières vagues de déportation, eux se réfugiaient dans une vaine sécurité à Jérusalem. Mais les exilés qui étaient méprisés, eux autres avaient l'assurance de par l'Éternel lui-même, « Je vais être votre asile, je vais être votre refuge. Faites-vous-en pas. » N'est-ce pas ironique? Puis en plus, ceux qui avaient tant de fausses assurances, ils ont fini par être détruits. Je pense qu'on peut retenir une leçon de ça. Que on n'a pas tout le temps à se fier à ce que la majorité peut dire. Parce que quand on voit ici, je le disais tantôt, il y a vraiment un frappant contraste entre les paroles de condamnation, de jugement, puis même, il y en a un qui meurt direct devant, devant Ézéchiel. Comme je prophétisais, Pelatia, fils de Benadja, mourut. C'est ce que ça veut dire. Il dit, vous allez mourir. Bang, il est mort. Je suis tombé sur ma face et j'ai crié à haute voix. Ah, Seigneur, extermineras-tu ce qui reste d'Israël? Il y a un contraste entre ça, qui est adressé à ceux qui se moquent, versus à ceux qui sont humbles, ou je dirais peut-être humiliés, parce qu'ils ont été humiliés en étant déportés, qui portaient l'opprobre parce que d'autres étaient vus comme rituellement impurs, cérémonialement impurs. Ah, vous êtes parmi les nations, vous êtes impurs, vous êtes jugés par Dieu, vous êtes les gros méchants. Il faut se rappeler que la majorité, l'orthodoxie, n'a pas toujours raison. C'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Ce qui fait que c'est vrai, c'est selon la parole de Dieu. L'opinion populaire était dans le champ. C'est là que ça lui fait revenir des petits souvenirs. C'est juste un hasard, faites-vous-en pas. Mais, tu sais, c'est ça, là. Ces gens-là étaient vus, les gens en exil étaient vus comme les mauvais, qui étaient jugés par Dieu. Ah, vous avez vu, là, vous autres êtes envoyés au loin. Puis nous, on est les bons, on est à Jérusalem. C'est la ville sainte, c'est la ville qui bénéficie de la faveur de Dieu. Voyez-vous la tromperie? C'était de la tromperie parce que c'est pas ça que les prophètes disaient. Puis Ézéchiel, c'est pas le seul à avoir dénoncé ça, là. Tous les prophètes disaient, Jérusalem va être jugée, arrêtez de vous confier dans la vanité, vous avez des fausses espérances, comme disait Jérémie. Et donc, on voit qu'entre la réalité versus la moquerie qu'il y avait, il y avait un grand contraste. Pourquoi? Parce que la moquerie, là, c'est illusoire. C'est penser que les choses sont d'une façon, puis vouloir se convaincre qu'elles sont comme ça, alors qu'elles ne le sont pas. Et c'est quoi qui fait la différence? C'est l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui sont les intentions et les pensées du cœur. Dieu dit la vérité, puis il nous montre c'est quoi la vérité. Même notre cœur, on ne peut pas le suivre parce qu'il est trompeur. Donc, il faut que Dieu tranche. Il y a quelque chose d'important que je veux dire par rapport à ça, dans notre deuxième point ici sur Christ, notre sanctification par un cœur nouveau. Lorsque Dieu nous donne un cœur nouveau, il brise l'illusion, la tromperie de notre justice propre. Ah, je suis une bonne personne. Puis même en tant que chrétien, ah, moi, je suis un bon petit chrétien. Une bonne petite chrétienne. Puis il remplace ça par une réelle humilité puis une foi authentique. Où est-ce qu'on voit, j'ai rien si ce n'est de la grâce de Dieu. Dieu, j'ai rien à t'offrir si ce n'est ce que tu m'as donné dans ta grâce. Je veux te le redonner comme un sacrifice de louange. N'est-ce pas? Parce que c'est ça la réalité. On peut se faire des accroire que c'est pas le même, mais c'est la réalité. Et je dirais que il y a quelque chose qui est arrivé avec l'exil à Babylone. Je ne sais pas si vous saviez, mais tu sais, les pharisiens du temps de Jésus, là, ils n'étaient pas idolâtres extérieurement. Parce que l'exil a purgé ça d'Israël. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes d'idoles. Les pharisiens, au contraire, hey, non, nous autres, on n'a pas d'idoles et tout ça. Regardez le verset 18. Ça dit, c'est là qu'ils iront et ils ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Sauf que ça prenait plus que juste un ménage extérieur. Jésus a fait le ménage intérieur. Il a purgé les idoles dans le cœur. Verset 19, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai leur cœur, de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Les pharisiens avaient le verset 18, mais il n'y avait pas en tout le verset 19 et 20. Il n'y avait pas un cœur nouveau. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça prend l'œuvre de régénération pour qu'on puisse vraiment donner à Dieu la gloire qui lui revient seule. Et Dieu brise notre orgueil pour nous sortir de notre incrédulité, afin de produire en nous une humilité d'où jaillit une foi vivante qui plaît à l'Éternel. Et je répète, Dieu brise notre... Dieu nous sort de notre zone de confort de Jérusalem. Il nous amène là où on ne voudrait pas pour nous sortir de notre orgueil. « Ah, oh, je suis capable! » Puis notre incrédulité. « Ouais, je vais m'organiser moi-même, puis je ne crois pas vraiment que Dieu a quelque chose de mieux. » Non, Dieu nous amène dans l'endroit pour nous humilier, puis nous amener à nous confier en lui. Une foi vivante et authentique en lui. Ou pour le dire autrement, Dieu veut produire en nous un amour humble. Son amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour-là est selon la vérité. Toujours. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Et ça triomphe de la haine, du mensonge. Parce que Jésus est l'inverse. La haine, le mensonge, ça c'est Satan. Meurtrier dès le commencement. Et il est menteur. Quand il parle, il ment, il parle de son propre fond. Mais Jésus est l'incarnation même. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il est l'incarnation de professer la vérité dans l'amour, d'incarner la vérité dans l'amour. Et lorsqu'il vit en nous, il triomphe du prince de ce monde, qui est notre ancien maître. Et c'est ça le fruit de Christ, notre sanctification par un cœur nouveau. C'est pas juste une réforme extérieure qu'on a besoin, c'est un ménage intérieur, une transformation complète. Et ça, ça nous rend complet. Tant qu'on n'est pas sauvé, on est incomplet. Et tant qu'un enfant de Dieu ne marche pas par l'Esprit, il est incomplet. Pour ça que de plus en plus, ça dit dans Philippiens qui prie que cette œuvre que Dieu a commencée, qu'il la rende parfaite, complète. Personne ici est suffisant et est tout accompli, là. Mais Dieu fait ça pour nous rendre de plus en plus à l'image de son Fils, qui est la plénitude, ce qui est complet pour tout en tous. À ce sujet-là, je veux vous donner un passage qui m'a parlé dernièrement. Et c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Écoutez bien ce que ça dit. « Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en premier mesure. » Les Thessaloniciens non plus n'étaient pas parvenus. Ah, il dit, je suis content, ça va bien, mais je vous encourage là, à marcher là-dedans de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Deux fois dans ce passage-là, ça parle que Dieu nous appelle, ou Dieu veut, Dieu nous appelle à la sanctification. Et ça, c'est le fruit concret d'avoir un cœur nouveau. Quand on a un cœur nouveau, ça va produire quelque chose qui n'est pas de ce monde. Ça va produire Dieu dans notre vie. Ça va produire la vie de Dieu. Et ces mots-là dans les versets, c'est les mots les plus importants parce que ça réfère à ce qui est complet, à ce qui est entier. À être tout ce que Dieu nous a créé pour être, qu'on a perdu dans la chute, qu'on retrouve en Jésus-Christ. C'est ça la beauté de ce passage-là. Puis c'est là qu'on voit qu'on perd ça quand ça parle ici des pratiques immorales païennes, la fraude et toutes ces choses-là. Ça nous enlève cette plénitude, cette entièreté spirituelle. On manque notre appel lorsqu'on cède à ces choses. Et donc, Christ, notre sanctification par un cœur nouveau, c'est l'appel de la grâce de Dieu à être par sa grâce tout ce qu'il nous a recréé pour être. On l'avait dans le jardin, on l'a perdu et Christ veut nous le donner dans toute sa plénitude. Et Dieu nous appelle à ça. C'est beau. Quand Dieu nous appelle à être saint, c'est pas comme « Ah là, vous allez être un petit club sélect, là. » La gang sur une montagne ou le club des faces longues et des faces plates. Hier, c'était le club des faces longues, des faces plates, n'est-ce pas? Si tu plates la sainteté, hein? Non, justement, ça, c'est le monde qui dirait ça. Mais quand on a un cœur nouveau, on est régénéré, on dit, hey, c'est la vraie vie. C'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est entier, c'est ça qui a cette plénitude qui m'amène cette vraie satisfaction. Et Dieu nous appelle à ça. Et c'est pour ça que le verset 8, c'est grave. Ça dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, le prédicateur qui a dit ça en avant, mais il rejette Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit puis qui atteste que ces choses sont vraies. Puis les conséquences sont graves. Pourquoi? Parce que lorsque le péché est toléré, excusé, la gloire de Dieu se retire. Et c'est le grand message d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel, le peuple avait accepté, normalisé le péché. Et là, avant que le jugement tombe, la gloire de Dieu s'est retirée. C'est le message d'Ézéchiel. Puis bon, il y a de l'espoir parce que ça nous dit aussi que Dieu va le restaurer. Mais j'aimerais vous dire à ce sujet-là, le plus grand jugement que Israël a subi avec la déportation de Babylone par les Chaldéens et tout ça, c'est pas d'avoir été envahi, que Jérusalem a été détruite et qu'ils ont été déportés à Babylone, mais c'est que la gloire de Dieu s'est retirée d'eux. La gloire de sa grâce. Et pour nous, le plus grand jugement qu'on a depuis 2020, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, dans cette société canadienne, québécoise, c'est pas les confinements, c'est pas le retrait de nos libertés, c'est pas la corruption généralisée. Parce que si ces choses aussi horribles et regrettables soient-elles, seraient arrivées, mais qu'on aurait été bénis, remplis de la gloire de Dieu dans nos églises, Dieu aurait préparé une table devant nos ennemis, un refuge dans la tempête. Et n'est-ce pas ce qu'on a pu voir ici dans une certaine mesure? Non, le pire qui est arrivé pour le corps de Christ, c'est que la gloire de Dieu n'était pas là, sa grâce, et donc on s'est fait écraser par ces choses alors que Dieu voulait que ce soit un tremplin pour transformer le mal en bien. C'est ça notre secours, c'est ça le message, c'est la beauté du livre d'Ézéchiel. On voit la gloire de Dieu, c'est ce qui est le plus précieux, c'est ce que, tu sais, les autres, on voit d'autres aspects de ce jugement-là qui est tombé de par la déportation babylonienne, mais c'est unique ce qu'on voit en Ézéchiel avec tout l'aspect de la gloire de Dieu. Le pire jugement qui peut tomber sur nous, c'est d'être privé de la gloire du Dieu de toute espérance. Et savez-vous, Paul, notre cher Paul, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il me partage des articles, il envoie des affaires sur Samizdat, je ne sais pas s'il y en a qui sont aussi dans sa liste de mailing, mais il m'a partagé quelque chose, j'ai trouvé ça bon, c'est, je pense que ça vient de l'Australie. Il y a des affaires qui produisent partout dans le monde, là. Australie, la France, puis tout ça. Pas Tombouctou encore, là, mais en tout cas, ça vient un peu partout. Puis, l'article soulignait, pensez-vous que c'est un hasard que le déclin social, le jugement qui tombe spécialement en Occident, pensez-vous que c'est un hasard que ça coïncide exactement avec le temps où l'Église a cessé de prêcher la repentance et le jugement à venir? C'est pas un hasard. Qu'est-ce que Jean-Baptiste et Jésus ont commencé en prêchant? Les deux ont prêché la même affaire. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, c'est l'appel. Le royaume des cieux est proche, c'est le fait. Et c'est encore vrai pour aujourd'hui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le retour de Jésus est proche. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Est-ce que ton âme a été rachetée par le sang de Christ? Écoutez ces versets, je vais vous donner comme un appel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » On a tellement vu de confusion, mais j'aimerais vous dire que les enfants de Dieu qui croient la parole de Dieu, oh, ça n'a pas été facile par bout, mais Dieu nous préservait de la confusion parce qu'il nous donnait l'assurance dans sa parole par son esprit. Puis si vous n'êtes pas encore sauvé, la confusion de savoir, je suis sauvé, d'être dans le doute, d'avoir toutes sortes de choses comme ça, c'est pour vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, c'est votre situation aujourd'hui, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et pour les enfants de Dieu, j'ai une dernière parole à dire. Est-ce que tu vis dans la réalité de la grâce de Christ, notre sanctification par un cœur nouveau? C'est une grâce que tu as reçue. Si tu es type, tu es un enfant de Dieu, c'est la plus grande grâce qui soit. Est-ce que tu vis dans cette réalité-là? Ou c'est juste quelque chose? C'est juste une idée? Est-ce que c'est ce qui te définit? Est-ce que c'est la réalité que tu vis? Savez-vous quoi? On peut toujours aller à Dieu. Il dit, ouais, j'ai pas été fidèle. Hey, écoutez, je vais vous dire une parole certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Seigneur, on veut venir à toi. Toi qui es toujours fidèle, toi qui sauves encore, toi qui es le seul vrai Dieu, sanctifie ton grand nom au milieu de nous. Merci que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour restaurer tout ce qui a été perdu. Merci pour le Saint-Esprit qui régénère, qui donne un cœur nouveau et qui illumine les yeux de notre cœur pour qu'on voit, lorsqu'on a ce cœur nouveau, toutes les richesses des trésors de la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, sanctifie-toi, Seigneur, par la réponse de ton peuple ce matin, par l'œuvre que tu veux faire dans la vie de chacun et dans cette église et dans les autres églises, Seigneur, glorifie-toi, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.